Bonjour, bienvenue à ce premier balado en français du projet Journalism Role Performance, donc la performance des rôles journalistiques. C'est une enquête internationale dont la collecte de données a été faite en 2020 et 2021 et qui porte sur les contenus journalistiques, mais aussi les perceptions par les journalistes de leur rôle professionnel. Autant leurs valeurs personnelles que leur perception de ce qui se fait à l'intérieur de leur organisation, de leur salle de rédaction. Alors, c'est un projet dont le volet canadien est dirigé par Nicole Blanchett à l'Université Ryerson avec toute une équipe pan-canadienne. Et le volet francophone est réalisé ici même à l'Université Laval. Donc, je le pilote moi-même, Colette Brin, directrice du Centre d'études sur les médias et bien sûr professeure au département d'information et de communication. Et pour ce projet-là, j'ai eu la collaboration de deux formidables collaboratrices et on va discuter aujourd'hui avec Mijanou Bourque-Bouliane. Bonjour Mijanou.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien. Contente de te recevoir dans notre studio. Donc, Mijanou, tu as un parcours qui ne prédisposait pas nécessairement à faire de l'analyse de contenu médiatique. Tu as une maîtrise en santé publique tu as fait des travaux. Tu as justement travaillé comme codeuse pour le Centre d'études sur les médias dans le cadre de nos analyses électorales. Comment est-ce que tu es arrivée à faire ce travail-là?
J'ai vu passer une offre d'emploi, puis même si ça ne faisait pas partie de mon domaine, je me suis dit « je vais m'essayer parce que ça a l'air vraiment intéressant ». Puis là, j'ai été chanceuse, j'ai été prise.
T'es une personne curieuse, oui, je pense, méthodique, efficace. En tout cas, on a pu constater ça au fil des ans. Et le codage, c'est un travail vraiment particulier. Oui. Tu as pu le constater, là, tu as pas mal d'expérience. Comment est-ce que tu décrirais la tâche d'une codeuse à quelqu'un qui n'a jamais fait ça, là, de l'analyse de contenu?
Dans le fond, techniquement, c'est ça, c'est qu'on... Il y avait... moi, dans le fond, j'ai fait du codage sur plusieurs sortes de médiums, des articles sur Internet, aussi des reportages de radio et de télévision. Puis c'est sûr que le codage change un petit peu selon quelle sorte de médias on regarde.
Et selon le projet, hein, les objectifs de la recherche.
Avec ça, il faut s'adapter toujours le codage au médium. Mais sinon, c'est vraiment... on a un journal de codage avec des catégories de... Par exemple, les rôles journalistiques, des choses comme ça. Puis là, en lisant, par exemple, un article, on va catégoriser les choses qui... selon le journal de codage. Puis, c'est quand même... c'est ça, je me suis rendu compte que... Tu sais, j'ai essayé le plus possible. J'avais toujours mon journal de codage très près de moi pour être sûre de coder de la bonne manière. Puis, j'ai aussi posé beaucoup de questions pour valider mon codage. Mais on se rend quand même compte, même si on essaie vraiment de se coller sur les choses pour être... pour pas s'en aller n'importe où, qu'il y a une partie de subjectivité là-dedans quand même. On s'est rendu compte à la fin qu'en regardant l'intercodeur, entre les différents codeurs, qu'on ne perçoit pas toujours les choses de la même manière. Ce n'est pas parce qu'il est écrit dans le journal de codage que telle catégorie est codée de telle façon. Mais là, tu arrives dans ton article, puis ça, c'est comme « oh! »
Alors, je veux juste arrêter un instant pour expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qu'on entend par un test. Dans le fond, c'est un test de fidélité intercodeur.
Oui, c'est ça. Oui.
Alors, à quoi ça sert, ça?
C'est pour être certain que toutes les catégories dans le journal de codage, tout le monde comprend la même chose, puis les codes de la même manière. Puis... on regarde, par exemple, 10 articles. Tout le monde a lu les mêmes 10 articles, fait le même codage.
Oui.
Puis là, on compare notre codage pour voir si on le fait de la même manière. Sinon, telle catégorie, par exemple, pourquoi une personne a déterminé qu'il n'y avait pas ça dans l'article versus une autre? Puis c'est là qu'on voit qu'on n'a pas toujours les mêmes perceptions.
Mmh, mmh. Donc, il faut faire des ajustements.
Oui, oui, beaucoup.
Puis dans le fond, ça fait partie de l'opération de test de la grille de codage.
Ouais.
C'est une grille de codage qui a été élaborée par Claudia Mellado et son équipe au Chili. Donc, Claudia est la responsable, la grande responsable de ce projet, qui en est en fait à sa deuxième itération. Mais c'est la première fois que le Canada est inclus. Et on devait aussi se concerter avec l'équipe de Toronto entre les médias anglophones et les médias francophones. Donc, ça ajoute beaucoup de couches de complexité. Puis, on devait absolument se conformer à la grille de Claudia, mais elle nous donnait quand même un petit peu de marge de manœuvre pour l'interprétation. Ouais. C'est toujours le problème avec ces grands projets comparatifs internationaux, c'est que chaque pays a un peu sa culture journalistique et puis les méthodes de recherche, les approches de recherche peuvent être différentes aussi selon les équipes. Mais on essaie de garder une uniformité. Donc, moi, de mon point de vue, là, toutes les discussions qu'on avait avec Claudia, avec Nicole et l'équipe pour s'assurer de respecter la grille du codage, c'était assez costaud, mais ça s'est bien passé. Oui. On voyait qu'on avait affaire avec des gens qui avaient beaucoup d'expérience et d'expérience aussi à faire des choses à l'international. Donc, ça a été vraiment, pour moi, en tout cas, très instructif. Tu parlais donc les différentes plateformes. Donc, on parle de contenu web, contenu radio,
télévision.
Ouais. Donc, au Québec, dans les médias francophones, on avait la presse, qui est un support entièrement numérique, même s'il a déjà été un journal. On avait une émission de Radio-Canada, de la radio qui s'appelle L'heure du monde.
Oui,
on avait TVA, le journal... Le TVA Nouvelle de 22h,
oui,
je crois.
C'est ça.
Donc, on avait ces trois médias-là. Tu constatais des différences dans la façon de coder. Il y avait des codes qui étaient un peu différents là, pour les différentes plateformes. Comment est-ce que c'était différent?
Bien, comme par exemple, si je code un article écrit versus si je code un reportage de télévision, là, il faut que je prenne en compte qu'il y a un annonceur qui parle. Puis, par exemple, puis après ça, il peut... aller rejoindre un reporter sur place. Donc là, c'est comme plusieurs intervenants, puis c'est pas la même chose à l'écrit. Donc là, faut comme ajuster notre manière de coder à ça. C'est pas la même manière de faire.
Et bon, toi, tu as, je pense, toujours codé à l'ère numérique, mais moi, j'ai connu dans le cadre de ma thèse de doctorat l'analyse de contenu sur les plateformes traditionnelles. Et depuis... un certain nombre d'années, on va dire, là, on ajuste, dans le fond, nos approches pour des contenus numériques. Puis, effectivement, ça demande... En fait, ça se complexifie beaucoup. Mmh. Ne serait-ce même pour l'échantillonnage, pour la collecte du matériel, là, on prenait, par exemple, pour la presse, la page d'accueil et ou la une à deux moments dans la journée, donc 11h le matin, 11h le soir, tu te souviens?
Oui.
Et... les articles qui étaient en une, qui correspondaient à nos critères, on faisait un lien de plus, la page de l'article, et c'est tout. On n'allait pas plus loin que ça, mais il fallait quand même déterminer, en tout cas, je veux dire, je pense à l'époque où on prenait des pages de journal, qu'on connaît, c'était un peu plus simple, mais c'est quand même très, très intéressant parce que ça nous a amené à toutes sortes de discussions sur les spécificités des contenus numériques. Une autre spécificité que ce projet-ci, c'est que ça s'est fait pendant l'année. En fait, l'analyse de contenu a porté, donc on avait des dates qui ont été sélectionnées au hasard, là, ce qu'on appelle des semaines récomposées, donc un lundi, un mardi, un mercredi, etc. Et donc des dates sélectionnées de manière aléatoire. Et on faisait, donc on avait du contenu pour chaque mois de l'année. Donc ça nous a permis de voir... à partir du mois de mars, l'apparition de la COVID comme sujet dominant.
Oui. Ouais.
Alors, je me demande si toi, parce que tu avais déjà l'expérience des contenus électoraux, c'est sûr que les contenus électoraux, c'est très particulier déjà, là, c'est pas comme du journalisme ordinaire, mais par rapport à ton expérience antérieure, as-tu vu des choses qui t'ont vraiment frappé dans ces contenus-là? Est-ce qu'il y a des choses que tu as observées qui t'ont...
Quand ça a commencé à parler plus de COVID?
Oui,
enfin,
par exemple.
Vite comme ça, là. C'est surtout que j'ai remarqué qu'à partir du mois de mars, là, presque toutes les histoires étaient sur ça. Là, mais
on s'en souvient, effectivement. Oui, c'était, on ne parlait que de ça. Puis après ça, ben, différents aspects de la pandémie, ouais. différents enjeux de la pandémie, que ce soit le travail, le télétravail, enfin, toutes sortes de...
Ouais.
Puis bon, tout ce qu'on a appris sur les CHSLD là, dans cette première année de pandémie.
Ouais.
Est-ce que tu as vu que vers la fin de l'année, est-ce qu'on commençait à parler quand même d'autres sujets ou plus tard dans l'année, ou c'était vraiment... la COVID prenait vraiment beaucoup
oui,
de place?
Oui, à partir de mars, là, c'était plus...
Bien, ouais. quelque chose qu'on a vu dans la comparaison entre pays, c'est que les sujets liés à la santé au Canada étaient beaucoup plus fréquents
ouais.
que dans d'autres pays.
OK.
Alors, on a l'impression qu'on a parlé peut-être plus de la COVID et des enjeux santé de la COVID que dans d'autres pays. Aussi, le recours aux experts.
Oui, c'est ça. C'est
aux sources
quand même
expertes.
Intéressant, oui. Oui.
Et ça, je ne sais pas par rapport à... Ben, c'est peut-être pas quelque chose que vous codiez pendant les campagnes électorales, là, les
non.
sources. OK. Donc, mais de mémoire, là, le genre de source experte qu'on trouvait, c'était la santé publique,
oui,
beaucoup,
c'est ça.
Mais j'imagine toutes sortes de domaines. Alors, si on faisait un retour sur cette expérience-là,
oui.
Comparativement à d'autres expériences que tu as eues en analyse de contenu, est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu as apprises ou...
Bien, oui, c'est certain que moi, étant donné que je ne venais pas du monde du journalisme... Il y a sûrement le langage journalistique, tout ce qui est les différents rôles du journaliste. Ça, c'est des choses avec lesquelles j'étais moins familière. Il y a peut-être d'autres personnes dans le projet qui étaient déjà familières.
Effectivement, les étudiantes qui collaboraient à l'Université Ryerson, c'est des étudiantes
oui, c'est
en journalisme.
Ouais.
Et puis, ici, à l'Université Laval, on a choisi des gens qui avaient une expérience de codage,
ouais.
Ou en tout cas de ce type de recherche-là. Mais en même temps, je me dis, c'est intéressant d'avoir la complémentarité.
Mais oui.
Alors, vous deviez avoir des échanges. Vous avez eu quand même quelques rencontres entre codeuses.
Oui, oui, oui. Oui.
Bon, ça se passait en anglais.
Ouais.
Mais ça allait, tu te débrouillais
quand même
bien.
Ça m'a fait pratiquer un peu.
Oui,
oui, ça a bien
oui.
été.
On a aussi utilisé pour le courriel un logiciel de traduction. Alors, à un moment donné, parce que les collègues de Toronto, les professeurs et les étudiantes ne sont pas bilingues. Enfin, la plupart ne sont pas bilingues.
Non.
Alors, on avait commencé à utiliser ce logiciel-là pour s'envoyer des courriels. Puis c'était très drôle parce que je voyais Myriam, qui est
oui.
notre doctorante qui travaille sur le projet, qui a envoyé un courriel traduit en anglais à une étudiante de Ryerson, et l'autre étudiante, elle, envoyait son courriel traduit en français. Alors, elle se parlait, c'est les merveilles de la technologie, de l'intelligence artificielle. Ça, et puis moi, je voyais passer les messages, puis je constatais qu'effectivement, la traduction était bonne. Puis
ouais.
moi, ça m'évitait d'être l'intermédiaire, puis de traduire
oui.
pour tout le monde. Donc, on a eu quand même des belles trouvailles, puis des moments vraiment agréables dans ce parcours-là. Alors, je te remercie beaucoup, Mijanou, pour avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui, avec moi aujourd'hui, de ce projet. Et j'espère qu'on aura l'occasion de collaborer à nouveau.
Oui, moi aussi. Merci.
Voilà, c'était le premier épisode du balado Journalism Role Performance avec Mijanou Bourboulian et Colette Brink.